cher André Louf, nous avons besoin aujourd'hui de devenir intimement sensibles à l'action de l'Esprit-Saint dans l'Église.
Donc c'est un appel à l'intériorité. Je pense que c'est là la clé de tout ce qui se passe dans l'Église, c'est notre disponibilité intérieure à écouter et à suivre ce que l'Esprit-Saint nous indique de faire, soit dans notre vie personnelle, soit dans notre vie de prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, soit aussi dans notre vie au service des autres.
Vous parlez de la vie intérieure, de l'intériorité. Est-ce qu'il y a des étapes? On n'y arrive pas tout de suite?
Cette sensibilité intérieure, elle est là, mais elle est là à l'état inconscient, je dirais. Nous ne sommes pas tout de suite conscients de cela. Et un des chemins pour réveiller le cœur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est faite pour le cœur et le cœur est fait pour la parole de Dieu. Lorsqu'une parole nous touche intérieurement, vraiment que nous avons l'impression que notre cœur sursaute, que quelque chose se passe vraiment, à ce moment-là, nous sentons notre cœur et nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes et sous la direction du Saint-Esprit.
Notre cœur est fait pour la parole est faite pour notre cœur. Père André Louf, il y a eu des paroles dans votre vie qui ont permis que votre cœur s'ouvre.
C'est exact. Il y a des paroles dont je me souviens avec beaucoup d'émotion. Parce que, bah, par exemple, une parole qui m'a longtemps occupé, c'est « Celui qui mange demeure en moi et moi je demeure en lui ». Ça, c'est une parole qui m'a longtemps nourri. Mais je crois que chaque jour, il y a une autre parole, une nouvelle parole de l'Écriture qui nous touche. Moi, quand j'écoute la parole de Dieu, quand je la lis, je suis attentif à ce que mon cœur me dit. Et lorsque une parole fait bouger mon cœur, que je suis comme blessé par cette parole, alors je la retiens et j'en fais ma prière. Je la colle au nom de Jésus. Ça change tous les jours. Seigneur Jésus, sauve-moi. Ça dépend de ce que la parole m'a dit au moment de la lection.
Cette parole, elle va se faire chair. Nous sommes en plein temps de l'Avent. Comment est-ce que chaque chrétien est appelé à vivre ce Noël dans ce cœur?
Oui, parce que c'est dans notre cœur, au fond, avant tout, que le Seigneur doit renaître une nouvelle fois au début de cette année liturgique qui va se terminer par la Passion, par la Résurrection, par l'Ascension. Mais tout commence là, une nouvelle naissance du Christ dans notre cœur.
Comment?
Par un contact assidu avec la parole de Dieu. Je pense que c'est le moment où notre cœur se réveille et où la parole devient très active. Il y a d'autres moments qui sont très importants. Par exemple, la tentation. Par exemple, l'épreuve. Au moment de l'épreuve, quand nous nous réveillons vraiment extrêmement faibles devant la situation que le Seigneur nous impose, nous crions spontanément. La prière jaillit spontanément. Nous crions au secours.
Est-ce qu'on peut dire que le temps d'avant correspondrait à un temps d'éveil?
Oui, c'est un temps où, dans l'attente, à travers l'attente, le cœur doucement se réveille et devient sensible, devient conscient de ce qui est depuis toujours dans le cœur, car depuis le baptême, le cœur est habité par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne cesse d'y crier « Abba Père », c'est la prière incessante du Saint-Esprit au plus profond de notre cœur. Mais nous n'en sommes pas conscients, notre cœur n'est pas assez éveillé et l'Avent est un temps de réveil où le cœur progressivement, à travers l'attente du Seigneur qui doit renaître dans notre cœur, où notre cœur se réveille.
Et Noël?
C'est la naissance du Seigneur en nous et en même temps dans l'Église, mais à travers nous, à travers cette expérience intime du réveil de notre cœur.
Est-ce que vous, André Louf, il y a eu un moment plus particulièrement de naissance du Christ en vous? Un moment où vous êtes né à vous-même et vous êtes né plus profondément encore à la présence de Dieu?
Oui, tout à l'heure, je vous citais la parole d'Évangile qui m'a tellement frappé. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis senti vraiment renaître intérieurement et en même temps donner une place au Christ au plus profond de notre cœur. Et en même temps, donner une place au Christ dans l'humanité, parce que les deux vont ensemble.
Mais est-ce que nous-mêmes, nous n'incarnons pas une parole?
Oui, c'est notre vocation particulière, cela. Et chacun dans l'Église a une vocation particulière, doit exprimer d'une façon particulière un aspect de la vie du Verbe incarné ici-bas, que ce soit par la prédication, que ce soit par l'accueil, que ce soit à travers la tentation, que ce soit par la par une prière intense et prolongée. Chacun a une vocation particulière.
Père André Louf, vous avez été 36 ans père abbé de l'abbaye du Mont-des-Cats. Lourde charge, lourde responsabilité et en même temps tant de grâce et d'épreuves.
Oui, tant de grâce et d'épreuves, mais je n'ai jamais rien regretté. Je pense que j'ai été un heureux père abbé dans un certain sens, en partie parce que j'avais d'excellents collaborateurs qui m'ont permis de me consacrer plus particulièrement au contact fraternel avec mes frères.
À un moment donné, vous parlez dans un de vos ouvrages de l'humilité, point zéro de la faiblesse.
C'est ça. Oui, je crois que quand on écoute ce que les autres veulent bien nous confier, ce que les autres éprouvent, c'est surtout, je dirais, leur prise de conscience de leur faiblesse, chacun en particulier. Parce que quand ils viennent parler, quand ils viennent ouvrir leur cœur, c'est pour parler de leurs difficultés. Souvent, c'est pas pour parler de leur victoire ou du contentement qu'ils éprouvent devant leur prouesse. Ça ne servirait à rien. Ils révèlent leurs points faibles. Et c'est dans la mesure où l'accompagnateur sait accueillir ce point faible sans culpabiliser celui qui s'ouvre, mais en prenant cette faiblesse en charge, l'assumant, la partageant avec celui qui s'en ouvre, que l'autre est aidé. Simplement par l'écoute et l'accueil et la prise en charge et le partage de ce point de faiblesse, de ce point zéro que l'autre vient nous confier.
C'est-à-dire que l'accompagnateur, celui qui écoute, descend avec lui.
Oui, absolument, descend avec lui et se fait pour ainsi dire le complice de cette faiblesse, mais c'est pour en remonter avec lui.
Est-ce que l'humilité, c'est le terreau de là où le Seigneur nous attend et là où il veut que nous soyons ses amis?
Tout à fait. Je crois que c'est là qu'il nous attend et pas là où nous croyons être quelque chose, avoir droit à ses applaudissements et à ses félicitations, mais seulement là où nous sommes les plus pauvres, c'est là qu'il nous attend. Il a besoin de cette pauvreté pour la combler de sa richesse.
Comment est-ce qu'on fait pour rester dans sa pauvreté?
La vie nous l'apprend tous les jours, n'est-ce pas? C'est-à-dire les difficultés qu'on rencontre, les tentations, les contradictions, les relations difficiles avec les frères ou avec les sœurs. C'est matière à prendre conscience de notre pauvreté.
Cette pauvreté, cette humilité de fond, c'est aussi, on peut dire, un moyen de guérison pour l'homme.
Oui, parce que c'est à partir de cette humilité qu'on va vraiment ressusciter, qu'on va refaire surface avec la grâce de Dieu. C'est vraiment le point de départ, le point zéro.
Point zéro pour la résurrection, point zéro aussi pour la charité.
Oui, 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 parce que la résurrection implique les bonnes relations avec les autres. Même si quelquefois ça grince un petit peu, quoi, ce qui est normal dans la vie commune d'ailleurs. Ça grince de temps à autre, mais c'est ça.
Alors dans un de vos livres, vous parlez des quatre étapes de la vie spirituelle, qui commencent par la conversion, la découverte de l'intériorité, la tentation et l'investissement du Saint-Esprit.
C'est ça, oui, dont d'ailleurs que j'explicite un peu en utilisant l'image que les pères de l'Église ont utilisée à partir d'Origène, le mariage spirituel. À partir du XIIe siècle, particulièrement avec saint Bernard et Guillaume de Saint-Thierry, c'est le lien d'amour, le lien sponsal entre Dieu et chaque âme individuelle.
Oui. Comment Dieu s'y prend avec nous pour nous épouser?
Il y a le livre d'Osée qui décrit en détail cette pédagogie divine pour que finalement l'épouse quitte les faux dieux auxquels elle s'était offerte et se contente de Dieu. Et donc Osée dit « Je vais barrer son chemin pour qu'elle ne puisse plus aller vers les faux dieux. Je vais l'attirer au désert et là, je lui parlerai à son cœur. » Le désert, c'est cette expérience de solitude où on est abandonné à Dieu, on est exposé à Dieu, vraiment. Dans l'attente, dans l'humble attente, et une attente persévérante aussi, parce que quelquefois, cette attente peut se prolonger très longtemps.
Noël, c'est aussi cette attente, c'est aussi cette exposition.
Au moment de Noël, on peut dire que le Verbe reprend chair dans notre cœur. Il s'incarne de nouveau en nous pour renouveler pendant toute l'année liturgique tout son parcours d'ici-bas jusqu'à la Passion et la Résurrection.
Cette vie spirituelle, si elle veut progresser, il faut qu'il y ait aussi une bonne connaissance de soi.
Oui, absolument.
Comment?
Oh, mais ça, je crois que c'est la vie de tous les jours qui nous l'apprend. Se connaître, c'est de se connaître dans la vérité, c'est-à-dire de se connaître humble, pauvre, dépendant de la grâce de Dieu, incapable de faire quoi que ce soit par nos propres forces, quoi. On fait uniquement ce que Dieu nous donne de faire au jour et à l'heure.
Quand vous parlez justement de l'investissement du Saint-Esprit, c'est à un moment donné où on sait que ce ne sont plus les forces humaines.
Absolument, oui, oui. C'est vraiment ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, dit saint Paul, ceux-là sont vraiment fils de Dieu. Être conduit par l'Esprit Saint.